France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Présente.
La folie des années 80.
On est dans la merde en France. On est dans la merde.
C'est cela, oui.
25 millions de rubis cubes vendus.
I said I want to fuck her.
Oh, maman.
3615 infogrammes, des milliers de pins à gagner.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Une série réalisée par Cécile Posse et Marion Guimette.
Année 1985.
Ce journal sera consacré en grande partie à la disparition du numéro 1 soviétique Konstantin Tchernenko, mort hier à l'âge de 73 ans. Son successeur s'appelle Mikhail Gorbatchev. À 54 ans, il accède aux plus hautes fonctions.
Le casque d'or s'est brisé. Simone Signoret, l'une des plus grandes comédiennes du cinéma français, est morte ce matin à 7h30.
Grâce à l'expédition franco-américaine, on sait maintenant tout ou presque sur le Titanic. Les deux navires océanographiques ont pu prendre 12 000 clichés en couleur du navire.
Enver Hoxha était le plus ancien des chefs d'État de la planète. Il vient de mourir après plus de 40 ans d'un règne sans partage sur l'Albanie, un pays que ce stalinien irréductible avait libéré du fascisme noir, sans l'aide d'ailleurs des grandes puissances, pour le plonger dans le plus effroyable des fascismes rouges.
Les 329 passagers et membres d'équipage du Boeing 747 d'Air India ont sans doute été tués par une bombe cachée dans la soute à bagages de l'appareil.
Michel Audiard est mort d'un cancer la nuit dernière dans sa maison de Dourdan dans l'Essonne. Michel Audiard était sans conteste le dialoguiste le plus célèbre du cinéma français. Il avait inventé les dialogues de plus de 70 films qui, tous sans exception, ont eu un très large succès dans le public.
Politiciens, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent, ben, je sais pas. Alors nous, on sait et on le fait.
Durant les années 80, les chanteurs, les musiciens, les acteurs, les humoristes, les artistes en général commencent à se mobiliser pour plusieurs causes charitables. L'heure est à la solidarité, qu'elle se fasse à l'échelle internationale ou au niveau national. SOS Racisme, par exemple, avec ce fameux slogan « Touche pas à mon pote ». Le premier concert a lieu le 15 juin 1985, et parmi les personnalités qui soutiennent cette association, il y a un certain Coluche qui, cette même année 85, lance un appel à la radio.
J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentils, vous chantez pour médecin sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je fais un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs pour de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà.
C'est le point de départ des Restos du Cœur.
Coluche, très précisément, quand et comment vous est venue l'idée des Restaurants du Cœur ?
Très précisément, quand est-ce que ça m'est venu l'idée ? C'est quand j'habitais une banlieue parisienne où on avait froid aux pieds l'hiver et on n'avait pas à bouffer tous les jours, et que je me suis dit, tiens, si un jour, par hasard, j'arrive à pouvoir faire quelque chose pour les autres, je le ferai. Ça, c'est un truc qu'on porte en soi depuis toujours, hein, je pense. Hein. C'est pas un truc qui vous arrive du jour au lendemain. J'ai rencontré dans le Nord le président du Conseil régional du Nord, Monsieur Noël Joseph, et qui m'a dit la même chose. Il m'a dit, moi j'aime bien ça, je suis content parce que j'ai eu froid aux pieds quand j'étais môme, c'est un orphelin. Et je trouve ça, bon, l'idée, elle a germé comment ? Bon, l'idée, je l'ai depuis toujours, en fait. Hein. Essayez, si on a la possibilité d'ouvrir sa gueule dans un endroit, au moins que ça profite à tout le monde, quoi. C'est comme ça, on emmerde forcément quelques-uns en même temps, qu'au moins ça profite au plus grand nombre. Et puis l'idée, elle est venue comment? Récemment, c'est que le nombre des gens qui n'ont pas à bouffer a augmenté terriblement. Et puis, d'autre part, c'est plus des clochards qui n'ont pas à bouffer, c'est des ouvriers spécialisés qui n'ont pas de travail. Et donc...
Il y a des cadres aussi.
Oui, c'est ça, voilà. Enfin, c'est, je veux dire spécialisés dans un travail, qu'ils soient cadres, qu'ils soient ouvriers simples ou spécialisés. En tout cas, c'est des gens qui savent faire quelque chose et qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, c'est tout à fait nouveau comme pauvreté. Et puis, je trouve que dans un pays comme la France, qui est connu beaucoup par la bouffe, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui n'aient pas à bouffer, quoi.
Vous avez déjà vraiment, Coluche, crevé de faim? Crevé, hein?
Crevé de faim, non. Non, je suis pas mort. Enfin, je sais que chez moi, on a eu des difficultés pour manger quand j'étais petit, ouais.
Chez les Colucci, on n'était pas riches?
Ah non, non, pas du tout, non. Ah non.
Coluche, il était né à une époque et dans un milieu très pauvre.
Marius Colucci, l'un des fils de Coluche.
La banlieue sud de Paris dans les années... le baby-boom, quoi, juste après la guerre. Et lui, il a vécu une enfance particulièrement pauvre. Alors, il le dit, mais il le dit avec humour, hein. Le truc le plus misérable dont il parle, c'est il dit... Le plus dur chez nous, c'était la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. Et ça, c'est à peu près le truc où il se plaint le plus de sa misère à lui, parce que c'est un peu un truc qu'il y a généralement dans les gens qui sont un peu indignes. Ils veulent justement garder de la dignité. Et donc, généralement, ils parlent pas trop de leur misère. Ils sont plutôt enthousiastes et positifs pour s'en sortir. Et en tout cas, c'est comme ça qu'était Coluche. Et ayant connu ça, et puis à cette époque-là, dans les années 80, il y avait eu tous les artistes qui s'étaient engagés pour faire un concert contre le sida, il y avait eu pour la famine en Afrique, pour l'Éthiopie, en France. Coluche, il s'est dit, c'est bien d'aider tous ces gens qui sont à l'autre bout du monde, mais il faudrait aussi aider ceux qui sont juste en bas de chez nous, quoi, dans les rues, à côté de chez nous. Et donc, il a eu cette idée de faire les Restos du Cœur.
Il y a beaucoup de bénévolats en France, il y a beaucoup de gens qui veulent aider ou participer d'une manière comme d'une autre. On a le soutien de deux ministères importants pour nous. En tout cas, c'est la solidarité nationale, d'une part, qui nous a fourni de l'argent, et d'autre part, l'agriculture, qui nous ouvre des portes à l'Ofival et à toutes les... Enfin, dans toutes les associations où on peut trouver de la viande et des légumes pas chers pour faire des repas. On a beaucoup de sponsors qui sont intéressés par nous aider. On a plein de gens qui vont nous donner des choses gratuites pour donner à bouffer, quoi. On va essayer de faire 200 000 repas par jour pendant les 3 mois de l'hiver. Soit on va faire 90 représentations, comme on dit dans notre métier, avec 200 000 personnes à table tous les jours.
L'opération commence quand?
Le 21 décembre et finit le 21 mars.
Il y a eu tout de suite un enthousiasme énorme autour du... La radio recevait des centaines, des milliers de coups de fil, de dons, de courriers. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés immédiatement. Donc, ils ont pu organiser assez vite une première distribution place de la Bastille, il me semble.
Le 21 décembre 1985, le premier Resto du Cœur ouvrait ses portes.
Tous les photographes, les journalistes, les fans de Coluche, tous les paparazzi étaient là cet après-midi à Lille pour voir Michel Colucci dans un rôle inattendu. Un Coluche très sérieux qui a ouvert le premier restaurant du Cœur de France. Un restaurant qui devrait nourrir gratuitement durant l'hiver tous ceux qui ne pourront pas s'offrir un repas. C'est ce que Coluche a expliqué dans une interview presque exclusive accordée à Pierre Mauroy, qu'il a reçue dans sa mairie de Lille.
Alors concrètement, alors comment ça se passe?
On a besoin concrètement de services municipaux dans le genre locaux pour conserver.
Vous voulez créer un restaurant
pour... Non, c'est plutôt un endroit, un comptoir de passage. C'est un local dans lequel on va travailler à la nourriture et on la distribuera à des gens qui ne font que passer. Du 21 décembre au 21 mars, on espère distribuer 200 000 repas par jour en France.
5 000 bénévoles ont distribué 8,5 millions de repas lors de cette première édition des Restos du Cœur.
Je crois qu'il était très content parce qu'en plus, il y avait eu des dons énormes puisque lui, donc, il avait... grâce aux dons qui avaient été faits, il avait pu acheter de la nourriture à distribuer. Et il en restait finalement à la fin, qu'il a donné à l'abbé Pierre. Donc oui, c'était plutôt un gros succès, surtout que je ne sais plus exactement combien il a donné à l'abbé Pierre, mais il me semble que c'était 1 million ou quelque chose comme ça. Alors c'était des francs, hein, à cette époque-là, bien sûr. Mais avoir 1 million de rab dans les années 80, ça vaut bien avoir 1 million d'euros de rab dans les années 2020. Et ensuite, il y a eu d'autres centres qui sont comme ça organisés petit à petit. Et puis, évidemment, la deuxième année, à partir de la deuxième année, là vraiment l'association s'est mise en place, s'est structurée avec des centres qui ouvraient d'abord que l'hiver et puis ensuite qui sont devenus permanents. Et on en est aujourd'hui à cette organisation avec il y a plus de 2000 centres en France et 70 000 bénévoles. Lui, d'ailleurs, à la base, il pensait faire un coup, comme il y a eu pour l'Éthiopie, pour l'Arménie aussi, il y avait eu ça. Il voulait juste faire un événement pour parler de la solidarité et de la misère en France. Et en fait, c'est parce qu'il est mort cette année-là, juste après avoir fait la première campagne, où d'ailleurs, il avait trop d'argent, il l'avait donné à l'abbé Pierre en symbole. Parce que l'abbé Pierre, lui, il avait une association qui durait longtemps, mais les Restos du Cœur, c'était juste un coup, c'était pas une association particulièrement qui devait vivre, et elle a vécu, en fait, parce que Coluche est mort et que les bénévoles ont voulu rendre hommage à Coluche, et du coup, à son combat, et c'est comme ça qu'elle reste, maintenant ça fait 35 ans, là.
Coluche crée les Restos du Cœur en 85.
Mathias Goudot, co-auteur du documentaire « La véritable histoire des stars des années 80 ».
Évidemment, après sa déclaration sur Europe 1, et puis va faire en sorte de mobiliser beaucoup de ses copains, les artistes, pour leur dire « Venez me donner un coup de main ». Il y a un moment, c'est parti des surplus européens qu'on doit redistribuer, parce qu'on va éviter d'arrêter de gaspiller. Et puis, à un moment, il faut aussi mobiliser pour aller chercher l'argent où il est, et puis apporter à manger à ceux qui n'en ont pas. Donc, ça va commencer par des émissions de télévision sur TF1, des après-midi, les dimanches après-midi, où ils vont mettre des Solex notamment aux enchères et plein d'autres choses. Donc il y a une mobilisation.
Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Il va demander une chanson à Jean-Jacques Goldman. Il a compris, Coluche, que pour fédérer et pour apporter des droits d'auteur, c'est-à-dire de l'argent, il faut un tube. Et donc, qui fait les tubes à l'époque? Jean-Jacques Goldman. Et donc, il va le voir, l'histoire est connue, il va le voir dans sa loge, la loge d'une émission de télévision, et il lui dit, voilà, tu sais faire des tubes, moi j'ai besoin d'un tube, donc tu m'en fais un. Et Jean-Jacques Goldman lui demande, bon d'accord, mais c'est pour quand? C'est pendant 3 jours. Et Jean-Jacques Goldman va enregistrer cette chanson au studio Gang, tout début 86, et puis cette chanson va sortir après, et va avoir le succès qu'on sait comme hymne fédérateur, en tout cas, de cette troupe qui maintenant se réunit depuis 30 ans, en tout cas, au profit de tous les bénéfices.
Cette troupe, c'est celle des Enfoirés.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépassé de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur.
Et puis on sait que Coluche va disparaître. Et puis, finalement, il disparaît et quelque part, il y a toujours besoin de soutenir cette cause. Et c'est Véronique Colucci, donc la femme de Coluche, qui, avec l'aide de la femme d'Eddie Mitchell, va décider de la première tournée des Enfoirés en 1989. Alors, c'est une tournée assez exceptionnelle parce qu'elle réunit les 5 plus grands chanteurs, c'est-à-dire Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Véronique Sanson, Michel Sardou et Jean-Jacques Goldman. Et ils vont faire une tournée. Et c'est la première fois comme ça qu'il y a cet événement, c'est-à-dire ces premiers Enfoirés, puisque Enfoiré, c'était un peu le nom de code de Coluche. Il a pris ce qui était une insulte, ça c'est assez formidable, pour devenir finalement quelque chose de très positif aujourd'hui, qui voulait dire à l'époque une sorte de couillon, un peu comme ça, mais gentil, c'était pas une insulte méchante. C'est ce qui va, voilà, la naissance des Enfoirés, on va être en 89. Sur les années 80, il y a cette mobilisation, on va dire, des artistes qui ont envie de servir à quelque chose en plus de chanter leurs chansons. Et c'est comme ça que va naître le premier concert des Enfoirés en 1989.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi.
Ce qui est amusant de voir, c'est qu'en 1989, il y a 5 artistes et 26 millions de repas distribués. Et en 2019, il y a 43 artistes, ils ont une cinquantaine, on va dire, et 130 millions de repas distribués. Et les bénévoles, c'est pareil, sont passés de 10 000 à 80 000. Donc, il y a une croissance énorme de l'aide apportée. Malheureusement, il faut mettre en parallèle le fait qu'il y ait une croissance énorme du besoin. Donc, même si l'aide a été grandissante, si effectivement les dons et ce que permettent de rapporter les Enfoirés à travers les ventes de disques, etc., ont apporté, mais voilà, il y a toujours un besoin grandissant, bien malheureusement, ça n'aide pas à tarir les besoins.
Coluche ne s'arrêtera pas là, il va faire voter une loi.
Une chose qui est importante, c'est que Coluche va effectivement démarrer les Restos du Cœur, va disparaître, démarrer indirectement les Enfoirés avec d'autres artistes, on va dire, mais pas les Enfoirés officiels, puis après vont démarrer les Enfoirés officiels, mais entre les deux, il y aura, et ce qui est très très important, c'est Coluche réussira à faire voter la loi Coluche. Et ça, c'est l'exemple d'un artiste saltimbanque, on va dire, comme on pouvait le penser à l'époque, mais qui va faire avancer les choses très très concrètement. Bien sûr, les Enfoirés chantent tous les ans pour apporter beaucoup d'argent et donc permettre beaucoup de repas. Mais la loi Coluche, qui est utile pour toutes les associations aussi, c'est-à-dire que dès que n'importe quel particulier ou entreprise donne, fait un don, une partie de ce don lui sera défalquée de ses impôts. C'est-à-dire que, quelque part, on donne beaucoup plus que ce qu'on paye. Et ça, c'est essentiel. Et là, encore une fois, c'est une avancée très forte de Coluche qui s'est battue pour aller au bout de son idée de cantine de récupération, on va dire, qui aujourd'hui est malheureusement un peu institutionnalisée. Mais cette institutionnalisation fait que, en tout cas aujourd'hui, il est encore important de donner au Resto du Cœur, et on est quelque part aidé par l'État quand on donne au Resto du Cœur.
Les années 80 sont donc les années de la solidarité. C'est l'époque des concerts caritatifs, des concerts dans des stades au profit d'une belle cause. C'est ce qu'on a appelé le charity business.
Thank you very much. I'd like to introduce some friends of mine to you. Would you welcome Mr. Robert Plant, Mr. Jimmy Page, Mr. John Paul Jones?
Disons, c'est une décennie qui est marquée par pas mal d'événements au niveau, je l'aurais dire, géopolitique et de choses assez difficiles, évidemment.
Laurent Riepi, journaliste, historien du rock.
Il y a évidemment la famine en Éthiopie qui va bouleverser le monde. Il y a aussi l'avènement du sida. Il y a aussi ce qui se passe en Afrique du Sud à ce moment-là. Il y a pas mal de choses qui font que, dans les années 80, pas mal de personnes commencent à s'organiser pour essayer de venir en aide à des populations qui souffrent, et ça commence à toucher évidemment beaucoup les artistes qui essayent de trouver une façon de réagir à toutes ces problématiques qui explosent dans les années 80. Et finalement, le concert de charité, s'il est né en fait dans les années 70 avec notamment les initiatives de George Harrison pour le Bangladesh, eh bien, va vraiment s'étendre, vraiment, je veux dire, se définir dans la décennie des années 80 à travers différents événements qui vont avoir une portée internationale. Notamment grâce à le système de diffusion sur de très très nombreuses télévisions à travers le monde, et donc ça va être vu par des centaines, voire des millions de personnes, et ça aura un véritable impact aussi. Le message va passer.
Terrible tragédie humaine que celle vécue par les habitants du Sahel. Le pays le plus touché, l'Éthiopie. 3 millions d'Éthiopiens sont menacés de mourir de faim. Plus de la moitié d'entre eux vivent sur des territoires en guerre, mais l'arme la plus meurtrière au monde reste encore la faim.
Afin de soulever des fonds pour aider la famine qui sévit en Éthiopie, deux méga-concerts sont organisés en 1985. C'est le fameux Live Aid.
C'est Bob Geldof qui était à l'initiative de cet événement avec un autre musicien qui s'appelle Mitch Ure. Bob Geldof, lui, c'est quelqu'un qui a fait partie d'un groupe qui s'appelle les Boomtown Rats, et qui aussi, dans le milieu du rock, a joué le rôle de Pink dans le film consacré à The Wall de Pink Floyd. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, dans ce début des années 80, qui rayonne beaucoup au niveau de la sphère musicale. Et donc Geldof s'associe à Mitch Ure, qui lui vient du groupe Ultravox et Visage, donc qui est vraiment une figure emblématique aussi de ce mouvement New Wave années 80. Et donc ils veulent réagir à ce qui se passe, aux images terribles qui nous parviennent à ce moment-là d'Éthiopie, et ils ont cette idée de s'organiser, d'écrire tout d'abord une chanson qui s'appelle « Do They Know It's Christmas ». Pour l'enregistrer, ils vont réunir en grand casting des plus grandes stars de l'époque, comme George Michael, Boy George, Paul Young, Simon Le Bon de Duran Duran, Bono, Bowie, Phil Collins, Paul McCartney et encore d'autres. Donc c'est vraiment une sorte de grande réunion des rockstars britanniques qui vont enregistrer ce Do They Know It's Christmas dans des conditions assez amusantes, puisqu'en fait le morceau va être enregistré et mixé en l'espace de 24 heures à peine. Donc réunir tous ces gens en studio, enregistrer et mixer le morceau pour le sortir pour les fêtes de fin d'année, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça va fonctionner parce que le 45 tours va être un succès incroyable, va permettre de récolter beaucoup d'argent pour l'Éthiopie. Bring peace and joy this Christmas to West Africa. A song of hope when there's no hope tonight. Là, on est en fin 84 et puis ça va permettre quelques mois plus tard de mettre en place le fameux Live Aid qui aura lieu le 13 juillet 85 avec deux concerts simultanés, un au stade de Wembley à Londres et l'autre au stade JFK de Philadelphie. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y aura un artiste qui aura l'occasion de monter le même jour sur les deux scènes. En fait, c'est Phil Collins qui, à l'aide du Concorde, va quitter Londres pour se rendre à Philadelphie. En fait, il va prendre le Concorde et puis à nouveau en hélicoptère pour se rendre le même jour et donc jouer sur les deux scènes. Et ce concert, ce sera évidemment à nouveau la réunion des stars avec des moments marquants, notamment le duo entre Mick Jagger et Tina Turner. Dieu aussi être entre Elton John et George Michael qui vont faire ensemble Don't Let the Sun Go Down on Me, qu'ils réenregistreront d'ailleurs par la suite. La reformation de Led Zeppelin, le retour des Who sur scène, Paul McCartney qui va revenir alors qu'il n'était plus monté sur scène depuis 5 ans. Donc ça c'est, et surtout, l'événement que je pense tout le monde va retenir, c'est ce mini set de Queen qui va évidemment connaître un succès incroyable. Ils vont jouer Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, moment mythique de ce concert qui sera d'ailleurs complètement reconstruit dans le film Bohemian Rhapsody. Et c'est vrai que Queen, à ce moment-là, est un petit peu, en perte de vitesse, mais en tout cas, ils ne sont plus aussi populaires, je dirais, que dans la fin des années 70 et début des années 80. Et ce Live Aid va aussi complètement repropulser leur musique et leur permettre, en fait, de, pour dire des choses franchement, ils vont voler l'affiche à tous les autres artistes, tant la prestation sera impressionnante et marquante. Mama, just killed a man. Gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got a throat.
Nous connaissons tous le Live Aid, nous avons peut-être un peu moins entendu parler du Farm Aid.
Here's a song for all you mamas out there, keeping those families together. And all you farmers' wives, doing your best.
Le Farm Aid, c'est assez marrant, c'est en fait l'idée indirect vient d'une phrase que Bob Dylan va prononcer en voyant le succès du Live Aid. Il dit « Ah ben j'espère que ça va donner aussi envie de donner de l'argent pour sauver les fermiers américains qui sont surendettés. » Voilà, c'est une phrase qu'il lancera comme ça. Cette phrase va résonner aux oreilles en fait de trois grandes figures du monde du rock et de la country que sont Willie Nelson, John Mellencamp et Neil Young, qui vont en fait à ce moment-là, à travers cette phrase de Dylan, se dire « Ah ben oui, on ferait bien quelque chose, parce que c'est vrai qu'au milieu des années 80, les fermiers américains connaissent une situation absolument dramatique au niveau financier, et donc ils vont monter en fait ce grand concert de Farm Aid, avec notamment comme invités Billy Joel, B.B. King, Roy Orbison et encore de nombreux autres. Et ce concert en fait va se faire un peu l'écho de par son nom, Farm Aid, au Live Aid, et un peu, je veux dire, surfer aussi sur, quelque part, la vague de ces événements caritatifs qui vont se multiplier de plus en plus dans les années 80.
Le 28 janvier 1985, aux États-Unis, se tiennent les American Music Awards. C'est ce moment que choisissent plusieurs musiciens pour enregistrer un tube destiné lui aussi à récolter des fonds pour aider l'Éthiopie. Ce titre, c'est celui-ci. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come
together as one. We Are The World, c'est vraiment un an après Do They Know It's Christmas.
Laurent Riepi.
Et donc c'est un petit peu la réponse, j'ai envie de dire, américaine à ce que les Anglais ont fait un an auparavant. Alors ici, l'idée de base vient du chanteur Harry Belafonte qui a envie de sortir quelque chose de caritatif, mais voilà, il se sent pas spécialement de l'écrire lui-même. Et donc il va notamment faire appel à Lionel Richie, qui va répondre oui à cet appel et va s'associer alors à Michael Jackson, au producteur Quincy Jones, qui est évidemment le producteur de Jackson à cette époque, évidemment un très très grand producteur de l'histoire de la musique. Ils vont s'associer et quand je parlais de réponse par rapport aux Britanniques, il y a aussi cet aspect, on est les Américains, on doit faire un casting plus important, un petit peu un aspect gonflette comme ça. Et donc c'est vrai que le casting pour USA for Africa sera un petit peu plus gonflé, j'ai envie de dire. Il y aura notamment Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Michael Jackson, à nouveau Bob Dylan, Cyndi Lauper, c'est Springsteen évidemment. Donc c'est aussi un petit peu l'Amérique qui se montre avec ses plus grandes célébrités. Et alors comment ils vont mettre ça en place, parce que c'est vrai que comme le casting est encore plus important que le casting britannique, c'est pas facile de pouvoir en fait gérer les agendas de toutes ces rockstars. En fait, ils vont profiter d'un bon moment, c'est-à-dire du fait que en janvier 85 se tient en fait les American Music Awards, où tout le gratin en fait de la musique américaine est réuni, et donc c'est enregistré dans la foulée de cet événement. Comme ça on sait que tout le monde est sur place. Et ce sera évidemment extrêmement bien vu de la part de l'équipe de production de USA for Africa.
Chanteurs britanniques et américains se sont mobilisés pour des causes charitables et notamment pour l'Éthiopie, les Français vont eux aussi s'engager dans cette voie humanitaire.
Ils n'ont jamais vu la pluie, ils ne savent même plus sourire, il n'y a même plus de larmes dans leurs yeux si grands.
On a toujours parlé dans la chanson des chanteurs engagés et des chanteurs dégagés, pour prendre la blague de Desproges.
Mathias Goudot, co-auteur du documentaire « La véritable histoire des stars des années 80 ».
Évidemment, Maxime Le Forestier, en chantant parachutiste, disait des choses engagées. Évidemment, Sardou, quand il dit « je suis pour » dans les années 70, lui aussi se prononce sur un fait politique qui a toujours eu comme ça. Mais les années 80 vont vraiment s'imposer beaucoup plus comme des groupes engagés, c'est-à-dire pas mal de chansons vont beaucoup plus parler des problèmes et plutôt internationaux. On pense évidemment à un groupe qui, l'air de rien, et c'est ça qui est amusant, c'est que parfois, l'air de rien, des groupes disaient des choses alors qu'on ne pensait pas que les chansons étaient aussi, on va dire, profondes, traitant de sujets particuliers. On pense à Plus près des étoiles, de Gold ou Ville de lumière, qui sont vraiment des chansons où ils dénonçaient les boat people pour l'une et les bombardements sur Beyrouth. Quand on les écoute et qu'on danse dessus, justement sur une piste de danse d'une discothèque, comme on le disait dans ces années 80, on n'a pas l'impression. Et en fait, effectivement, ce sont des chansons engagées. On peut pas ne pas penser à Daniel Balavoine, évidemment, qui terminera sa carrière parce qu'il est allé s'engager lui aussi personnellement. Évidemment, cet engagement va être dans la continuité du 28 janvier 1985, où Jackson va lui aussi, lui encore, lancer le We Are The World, qui est la première réunion de tous les plus grands chanteurs américains pour défendre une cause. Pendant les années 80, les chanteurs lèvent le poing, ça c'est sûr. Et en France, on aura la chanson Éthiopie, qui va réunir, un peu à la manière de We Are The World de Jackson, autour de Renaud au départ, les plus grands chanteurs français, pour recueillir des fonds, pour aider en tout cas les associations qui s'occupent de contrer cette famine énorme qui a lieu en Éthiopie. Effectivement, dans les années 80, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe autour de nous et dans le monde, et les chanteurs vont s'en préoccuper en venant en aide à plein de causes en fait différentes, parce qu'il y a une ouverture déjà sur beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de radio, beaucoup plus d'informations qui va circuler, on va être beaucoup plus au courant, et puis on a quelque part besoin, face à cette multiplicité des canaux de diffusion de la musique, ce qui va donner aussi beaucoup plus de chanteurs qui vont exister, ce qui va aussi donner beaucoup plus d'argent dans le monde de la musique qui va circuler. Certains vont vouloir quelque part un peu redonner en fait ce qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est peut-être le cas en tout cas de Michel Berger et de Balavoine par exemple. Ils ont besoin en tout cas, face à tout ce qui leur arrive, face au succès, que ce succès ne soit pas vide et que ce succès ait du sens aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas chanter non plus que quand le désert avance, sans aller éviter qu'il avance. Donc il y a ce besoin en tout cas d'être cohérent entre ce qu'on chante et puis la réalité dans l'aide qu'on apporte.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance.
France Gall, Michel Berger et Daniel Balavoine mettront sur pied un projet humanitaire en 1985, Action École.
Action École, ça naît du concert Live Aid à Wembley.
Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde.
Où Monique Lemarcy de RTL a invité un certain nombre de chanteurs français, dont Jean-Jacques Goldman, dont Daniel Balavoine, et Lionel Rodcage, qui est un ami de Bob Geldof, qui est un journaliste français, qui a beaucoup déjà travaillé dans l'humanitaire, qui a travaillé avec Bernard Kouchner, etc. Alors, les chanteurs français sont épatés, évidemment, par Live Aid, parce qu'on fait les Anglais, les Américains, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous qui ne savons pas faire ce genre de truc, etc. Et donc, Lionel dit à Daniel, il dit, mais c'est pas compliqué, il y a des trucs qu'on peut faire, voyons-nous, avec Michel, avec France, Richard Berry qui s'est joint à eux, puis plus tard Carl Bouquet notamment, Bernard Kouchner qui a été aussi un des sympathisants. Et voilà, Action École est née comme ça, avec Lionel disant, mais c'est à travers les lycéens, c'est à travers les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, qu'on va pouvoir sensibiliser la société française. Et on s'est beaucoup mobilisé. Michel et France ont été extrêmement impliqués, Daniel aussi, dans Action École. C'est pour cette raison que Daniel Balavoine était dans l'hélicoptère qui est tombé sur le Paris-Dakar, parce qu'il allait s'assurer qu'on livrait bien des pompes à eau au Niger et au Mali. Michel et France se sont beaucoup impliqués. France est allée en voyage à Dakar, elle a traversé l'Afrique, le Mali, la célèbre évidemment histoire de Babacar, hein, donc cet enfant qu'elle a adopté, qu'elle voulait ramener en France. Michel a dit non, il faut le laisser à sa mère, on ne peut pas faire ça, il faut les aider chez eux et là-bas, et pas simplement aider un enfant qu'on ramènerait à Paris.
La fête de SOS Racisme prend place le 15 juin 1985, place de la Concorde à Paris. Cette date marque également le départ de la caravane Jéricho. C'est une initiative destinée à attirer l'attention de l'opinion publique sur le cas du musicien nigérian Fela Kuti, qui est emprisonné depuis le 8 novembre 1984. La caravane est ainsi baptisée parce que c'est la musique qui va faire tomber les murs, selon en tout cas l'expression des musiciens qui comptent par exemple le groupe Ghetto Blaster, Morikante, Relema, Salif Keita et bien d'autres. La caravane va sillonner l'Europe pour apporter son soutien à Fela Kuti. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. Free, free, Nelson Mandela. Dans les années 80, de nombreux artistes veulent eux aussi marquer leur soutien à Nelson Mandela, qui est emprisonné depuis 1964. Il avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour sédition, après avoir mené la lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud, l'apartheid.
Ce qui l'a conduit à militer, c'est le contact avec la vie d'une township, la vie de ce qui est aujourd'hui Soweto.
Dominique Lagarde, journaliste.
Ce qui était à l'époque Orlando, près de Johannesburg. Puisqu'en fait, il a dû interrompre ses études à la suite d'une expulsion de l'université, puisqu'il avait participé à l'organisation d'une campagne de boycott contre le Conseil des étudiants. Il est rentré au Transkei, mais sa famille a voulu lui imposer un mariage tribal, ce qui ne lui a pas plu, et il a décidé d'aller à Johannesburg. Et c'est là qu'il commence à militer, parce qu'il est en contact avec la vie quotidienne des gens des townships. De plus, il termine à ce moment-là ses études de droit. Il ouvre un cabinet d'avocat avec Oliver Tambo, l'autre leader de l'ANC. Et dans ce cabinet d'avocat défilent toutes les victimes de l'apartheid. Ce qui fait qu'il prend conscience à ce moment-là de ce que c'est que l'apartheid dans la vie.
Plusieurs lois discriminent les personnes noires. Par exemple, elles n'ont pas le droit de vote. Ce sera d'ailleurs un des combats de Nelson Mandela.
L'égalité entre noirs et blancs. Et c'est vraiment ça l'essentiel pour Mandela. Ensuite, oui, on peut prendre le document de base, c'est la Charte de la Liberté, à l'élaboration de laquelle il a participé très directement, et qu'on peut presque qualifier de texte social-démocrate. La Charte de la Liberté demande la nationalisation des mines et du crédit, elle demande une politique du logement, l'éducation pour tous, elle demande une réforme agraire, elle demande le respect pour tous des grandes libertés publiques, droit d'association, liberté de presse, liberté d'opinion, et elle demande bien sûr surtout le droit de vote pour tous.
Nelson Mandela fera partie de l'ANC, l'African National Congress. Leur but, l'égalité des droits entre personnes blanches et personnes noires.
Au moment où Nelson Mandela adhère à l'ANC, l'ANC est un parti de notables africains, très légalistes. Alors Mandela, Oliver Tambo, Walter Sisulu vont créer au sein de l'ANC une Ligue des Jeunes. Et c'est cette Ligue des Jeunes dont Mandela devient le secrétaire général qui va animer l'ANC, qui va inciter l'ANC à ce qu'ils appellent à l'époque l'action directe. C'est-à-dire que ce n'est pas une action armée, du moins à l'époque, mais l'organisation de grèves, de ce qu'ils appellent les campagnes de défi, etc. Il explique très bien qu'il a choisi la lutte armée après son passage dans la clandestinité. C'est-à-dire que l'ANC, sous l'influence de la Ligue des Jeunes, a adopté ce qu'ils appelaient l'action directe pendant un certain temps. Et puis il y a eu Charpeville, en 1960, l'interdiction de l'ANC, le passage de Mandela à la clandestinité. Et là, il a créé en 1961 une branche militaire de l'ANC. Donc il a choisi, à partir de là, l'action armée, ce qui n'était pas le cas auparavant. Bien, alors Mandela était donc passé à la clandestinité un peu après l'interdiction de l'ANC, en 1960. Il s'est permis, pendant cette période, de quitter l'Afrique du Sud pour aller clandestinement à l'étranger. Il a assisté à une conférence panafricaine à Addis Abeba, il s'est rendu dans différents pays d'Afrique, il s'est rendu à Londres, il a suivi un entraînement militaire en Algérie. Il est rentré en Afrique du Sud et, sur dénonciation d'un informateur de police, il a été arrêté en 62 et il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir quitté illégalement le pays et pour avoir incité à la grève en 61. Par contre, ensuite, ont été arrêtés dans une ferme à Rivonia Walter Sisulu et quelques autres membres de l'ANC, et surtout ont été retrouvés dans cette ferme des documents qui prouvaient la création de cette branche militaire de l'ANC dont on parlait tout à l'heure et qui avait été créée par Mandela. Alors à partir de là, il y a eu en quelque sorte un second procès, donc il était déjà arrêté et condamné, un second procès qui est le procès de Rivonia, pour lequel il était l'accusé numéro un et au terme duquel il a été condamné à la prison à vie.
Dans les années 80, cela fait plus de 20 ans que Mandela est prisonnier. Les artistes se mobilisent avec deux revendications, sa libération et l'abolition du régime de l'apartheid.
Autour de Mandela et de la situation en Afrique du Sud par rapport à l'apartheid, il y a deux choses vraiment à pointer, notamment un premier projet qui a lieu en 85 qui s'appelle Artists United Against Apartheid. Ça, c'est un projet en fait qui est mis en place par Steven Van Zandt. Alors, c'est peut-être un nom qui ne dit pas grand-chose au grand public, mais Steven Van Zandt, en fait, c'est le guitariste de Bruce Springsteen. C'est lui un peu son bras droit. Et c'est quelqu'un qui continue à l'accompagner aujourd'hui et qui a un fameux carnet d'adresses et qui va, pour l'enregistrement de ce morceau, réunir Dylan, Lou Reed, Gabriel, George Clinton, pour sortir un morceau qui s'appelle Sun City. Alors Sun City, c'est quoi ? Sun City, c'est un endroit en fait en Afrique du Sud où des grands concerts de rockstars peuvent avoir lieu, notamment le groupe Queen va jouer là-bas. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a tout un appel au boycott des concerts à Sun City, en fait, tout simplement parce que certains artistes estiment à ce moment-là que si on va jouer en Afrique du Sud, c'est qu'on soutient, en fait, le régime de l'apartheid. Et donc, le morceau Sun City, c'est vraiment un appel des artistes vers les autres artistes, mais vers aussi un appel vers le monde entier de dire, surtout, ne soutenez pas le régime de l'apartheid, luttez contre ça. Et donc, ce morceau va avoir un certain succès aussi en 85. Trois ans plus tard, pour les 70 ans de Mandela, qui est toujours en prison en ce moment-là, le 11 juin 88,
Laurent Riepi.
Il va avoir un nouveau grand événement, à nouveau au stade de Wembley à Londres, avec cette fois Eric Clapton, Sting, Eurythmics, Dire Straits et Mark Knopfler, donc énorme concert qui va être diffusé dans 67 pays, donc des millions de personnes vont pouvoir le voir à travers leur télévision, et préciser aussi que cet événement, en plus d'être musical, sera en fait accompagné de plusieurs prises de parole, notamment de personnes qui viennent aussi du monde du cinéma, qui vont prendre en fait la parole pour défendre Nelson Mandela notamment. Et en fait, les différentes prises politiques de l'événement seront, et c'est quand même important de le signaler, censurées par certains médias américains conservateurs. Et donc, certains médias décideront de passer uniquement les extraits musicaux, mais dès que ça parlera politique, eh bien, ce sera censuré. Ça montre aussi dans quel état d'esprit on est encore à ce moment-là.
To honor a great man. The man is the leader of South Africa's oppressed black people. He is a symbol of their fight against the cruel and unjust system of apartheid. The man is Nelson Mandela.
Le concert pour les 70 ans de Nelson Mandela aura un réel impact. On sait que Mandela sera finalement libéré 2 ans plus tard, en 1990, mais ce concert a réellement un impact et va vraiment éveiller les consciences au niveau de l'international par rapport à la situation.
Journal du 11 février 1990.
Mandela.
Voilà, nous entendons Nelson Mandela qui, voilà quelques minutes, au Cap, arrive devant la foule. Et la salue en Zoulou. C'était il y a à peine 10 minutes au Cap.
Friends, comrades,
mes chers amis, chers camarades,
and fellow South Africans,
et compatriotes sud-africains,
I greet you all,
je vous remercie tous
in the name of peace,
au nom de la paix,
democracy and freedom for all,
de la démocratie et de la liberté pour tous.
I stand here before you,
je me tiens ici devant vous,
as a prophet,
non pas comme un prophète,
but as a humble servant,
mais comme un humble serviteur de vous, le peuple.
Cette voie humanitaire, cette ouverture sur le monde aura des influences dans le domaine culturel et notamment dans la musique, puisque c'est au cours des années 80 qu'est né le concept de world music.
Les musiques du monde, elles existent bien évidemment depuis toujours, puisque souvent ce sont des musiques traditionnelles. Ce qui se passe dans les années 80, c'est que, notamment à Paris, mais aussi à Bruxelles, aussi à Londres, mais surtout à Paris, se trouvent énormément de musiciens africains, d'Afrique francophone, hein, et à un moment où ben justement cette mondialisation va permettre de renouveler d'abord les rythmes du rock ou les rythmes du disco, hein, qui sont des rythmes assez simples, pour des polyrythmies plus complexes. Scène va beaucoup se cristalliser autour des artistes africains à Paris et de ce que nous appelons donc la sono mondiale, où vous allez avoir réunis ici et trouvant des producteurs, ben Maurice Kanté, hein, qui a un énorme tube européen avec Yeke Yeke, mais aussi Salif Keita, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, un nombre, les Touré Kounda, Geoffrey Oriema, beaucoup d'autres encore, Ismaël Lo, qui vont permettre de faire entrer l'Afrique dans le concert de la musique mondiale sur les traces de Babaté Olatunji et Myriam Makeba, Hugues Masekela dans les années 60, et de Manu Dibango avec Salma Kosa, hein, qui avait été la première superstar africaine aux États-Unis, tout en étant basé à Paris, hein, puisque il enregistrait beaucoup ici, et qu'il avait joué avec dans l'orchestre de Nino Ferrer, il avait joué avec Dick Rivers, il avait joué avec Mike Brandt, avec Gérard Manset. Manu, c'était le précurseur, en tous les cas, des Africains dans le milieu parisien. Et à Bruxelles, il y avait Zap Mama et d'autres. Et d'ailleurs, Manu avait débuté à Bruxelles avant même de venir à Paris.
Beaucoup de musiques qui sont totalement acceptées aujourd'hui, qui sont même très populaires pour certaines, comme le hip-hop.
Bernardo Belair, journaliste, spécialiste des musiques du 20e et 21e siècle.
Ou les musiques du monde, ce qu'on appelle musique du monde, world music, sont nées dans les années 80 en fait. Pour quelles raisons les musiques du monde ont pris un petit peu plus d'importance au début des années 80? Il y a plusieurs facteurs. Il y a peut-être des gens comme Brian Eno, qui est un producteur britannique, mais qui a produit notamment Talking Heads, groupe new-yorkais, et ils ont fait déjà à partir du deuxième ou troisième album, et particulièrement dans Remain in Light, ils ont inclus des percussions africaines, caribéennes, etc. Il y a des hommages à Fela Kuti. Il y a eu cet aspect-là, on a fait beaucoup d'expérimentations avec des musiciens qui venaient d'horizons différents. Il y a eu à Paris, il y avait un magazine qui s'appelait Actuel, et il y avait aussi donc une radio qui existe toujours qui s'appelle Radio Nova. Ils ont beaucoup insisté là-dessus parce qu'il y avait une très forte communauté algérienne à Paris, mais aussi une communauté africaine. Il y avait beaucoup de Congolais, il y avait bon toute l'Afrique française, comme ils l'appellent. Donc il y avait une forte communauté africaine, et je pense que ils ont, à travers leur magazine, mais aussi à travers la radio, ils ont beaucoup mis en avant ce genre d'artistes. Et ils ont même trouvé un nom à l'époque, ils parlaient de sono mondial. C'était le terme qui était mis en avant par Actuel. Et je ne pense pas qu'on parlait déjà de musique du monde ou de world music à ce moment-là, ce qui ne veut absolument rien dire, world music. Je raconte souvent cette anecdote, mais je suis allé à Los Angeles dans les années 90, la première fois, et je suis allé dans des magasins de disques, et dans le département world music, il y avait des disques de Patricia Cass. Donc voilà, la world music, c'est tout ce qui n'est pas ce qu'on connaît, évidemment. Ce concept est né à ce moment-là, en partie à Paris grâce à Radio Nova et Actuel, mais aussi grâce à un musicien britannique, Peter Gabriel, qui a toujours manifesté beaucoup d'intérêt pour l'Afrique. Il a fait des chansons qui parlaient d'Afrique du Sud, de l'apartheid, évidemment. Mais il a aussi créé un festival qui s'appelait le WOMAD et qui était un festival de world où à l'affiche on pouvait trouver des artistes européens, des artistes américains, mais aussi des artistes pakistanais. Par exemple, je crois que c'est une des premières fois que Nusrat Fateh Ali Khan, qui est le grand maître des Qawwali, enfin qui était le grand maître des Qawwali, donc la musique pakistanaise, c'est une des premières fois qu'il a pu se produire devant un public très large dans des festivals et un public surtout qui sortait de la communauté pakistanaise de Grande-Bretagne. Ça a fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu une visibilité beaucoup plus grande, comme Ray Lema à Paris ou Youssou N'Dour, qui a eu ce fameux duo avec Nene Cherry dans les années 80, qui a fait un énorme succès. Donc il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et puis des producteurs comme Brian Eno, je le disais, mais aussi tous ces producteurs comme Daniel Lanois, ils se sont intéressés à tous ces artistes qui venaient d'un peu partout. Donc la world music, je ne sais pas si elle portait tout de suite ce nom-là, est vraiment née dans les années 80 et s'est développée tout au long des années 80 pour devenir aujourd'hui évidemment une évidence. Aujourd'hui, les ados écoutent de la K-pop, donc la musique coréenne, il n'y a plus vraiment de frontières musicales.
Oppa Gangnam Style. Gangnam Style.
Il y a eu évidemment une influence parce que beaucoup de gens se sont mis à redécouvrir Fela Kuti, Nusrat Fateh Ali Khan. Bon, c'est plus difficile de refaire des Qawwali ou la musique indienne. Il y a eu aussi évidemment toute cette vague Bollywood, la musique un peu de variété qu'on trouve dans les films indiens. Donc il y a eu un intérêt qui s'est développé pour ça. Et puis surtout, ça a permis à des artistes comme Cheb Mami, par exemple, enfin tout le raï, qui est une musique qui est née en Algérie, mais qui s'enregistrait essentiellement à Paris, cette musique est devenue un petit peu plus grand public. Il y a des groupes comme Carte de Séjour, qui était un groupe de rock plutôt punk, plutôt dans la lignée de Clash initialement, qui était donc le groupe de Rachid Taha, mais qui mélangeait à la fois l'influence rock européenne et aussi la langue arabe. Et donc tout ça peut-être participait à ce côté plus visible de ce genre de musique et donc peut-être probablement a influencé aussi d'autres artistes. Il y a eu aussi évidemment plein d'expérimentations. Grace Jones par exemple travaillait avec des musiciens jamaïcains. Alors la Jamaïque a toujours été un petit peu exclue de la world music parce que le reggae est devenu tellement énorme que c'était un genre musical en soi qui n'est pas considéré comme la musique du tiers-monde, comme on pouvait le dire. Mais donc, il y a quand même eu des expérimentations à la fois avec des percussionnistes cubains, plutôt salsa, où on y mélangeait aussi des artistes nord-africains, asiatiques. Enfin, c'est vraiment une période d'expérimentation, oui. Et donc, forcément, ça a eu de l'influence sur plein d'artistes, oui.
Hey.